Il est 14h05 minutes. Il y a un ancien policier de Repentigny qui a été condamné pour avoir, j'allais dire donné, mais c'est plus vendu des renseignements à un criminel et aussi avoir transporté des comprimés de méthamphétamine qui va sortir momentanément de prison parce qu'il a été condamné l'année passée pour aller donner, sensibiliser en fait les policiers de la Sûreté du Québec par le biais de conférences, d'une vidéo également, va aller les sensibiliser aux conséquences des actes qu'il a commis. Autrement dit, il va aller dire aux policiers, faites pas ce que je fais, faites ce que je dis. Et donc, le policier en question s'appelle Carl Ranger. Il a été condamné l'an dernier, va donc bénéficier de cette permission spéciale. Est-ce que c'est fréquent que des policiers aient ce genre de témoignages qui viennent leur montrer que finalement, si toi-même t'es un criminel, ça se pourrait que ça se passe pas bien. On va en parler avec Jean-François Brochu, qui est spécialiste en affaires policières. Bonjour, M. Brochu.
Monsieur Lacroix, bonjour.
Alors, est-ce que c'est fréquent, à votre connaissance, qu'on ait recours comme ça à des témoignages d'anciens policiers retard pour sensibiliser les agents actuels aux risques qu'ils courent si jamais ils font des fautes?
Non, c'est pas fréquent, mais cependant, le programme de prévention et de sensibilisation au potentiel, au comportement potentiellement à risque, ouais, existe à la Sûreté du Québec depuis plusieurs années. C'est un programme qui est à partir des normes professionnelles. Mais non, ce n'est pas fréquent qu'un ripoux, parce qu'on va le dire comme ça, c'est dans, ouais, le cas de monsieur, c'est exactement ça, qui a été arrêté, on se souviendra, là, il y a une couple d'années dans le projet Objection qui visait les moteurs criminels. Mm-hmm. Il a effectivement vendu du renseignement obtenu sur le CRPQ et a transporté des stupéfiants, mais il s'est fait intercepter par les policiers.
Bon. Dans son cas, en fait, il y a tout le temps des circonstances là, qui expliquent ces gestes-là en général. Ouais. Mais lui, bon, il était endetté, puis à un moment donné, on lui a fait des offres, puis il est allé chercher de l'argent en échange de ces renseignements-là, etc. Est-ce que les policiers sont souvent confrontés à ce genre de situation-là?
C'est très important que vous le souligniez parce que c'est là qu'est la base de l'affaire. C'est que les policiers, il y en a 5500, pardon, à la Sûreté du Québec seulement, ouais, là, il y en a 5500 sans compter les 2000 quelques employés civils. Mais au niveau des 5000 policiers, ce sont des, bon, vous avez dit, ce sont des êtres humains qui ont possiblement, qui peuvent avoir des situations financières, par exemple des cas de séparation, de divorce, on perd la maison, etc., où on le sait tous, là, c'est la même chose que pour tous les citoyens, ou le comportement de problèmes d'alcool, de jeu. Alors, l'objectif des programmes mis en place par les normes professionnelles, moi, je l'ai vécu, j'ai travaillé dans ces conditions-là, c'est que l'objectif des normes professionnelles, c'est justement de sensibiliser les membres, ouais, au comportement à risque et que chacun puisse être en mesure d'intervenir auprès d'un collègue pour prévenir justement la commission d'actes criminels. Mmh. Donc, il y a le côté... Et il faut savoir aussi, M. Lacroix, que les policiers sont soumis à la déontologie policière 24 heures par jour, même en dehors de leur fonction. Donc, leur comportement, par exemple, dans un bar ou leur comportement en dehors des heures, ne serait-ce qu'avec leurs voisins, ouais, leur comportement peut être soumis à la déontologie policière. Donc, okay, les normes professionnelles en matière de prévention, justement, parlent aux gens, les sensibilisent sur tous ces aspects-là.
Mais ce qui m'a étonné ce matin en lisant cet article-là dans la presse, c'est que les policiers, là, ils sont confrontés au crime à longueur de journée. Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de rencontrer un ancien policier qui lui-même, ouais, est tombé dans le crime? Comprenez-vous ce que je veux dire? Dans le sens où ils sont sensibilisés tous les jours. C'est eux autres qui arrêtent les voleurs. Ils doivent le savoir, les conséquences du crime, non?
Oui, c'est ça. Mais c'est le cheminement. Qu'est-ce qui l'a amené? Parce que c'est pas tous les policiers qui interrogent des bandits tous les jours, là. Ouais. Vous l'avez dit, comme dans ce cas-ci, par exemple, ce sont des membres de l'escouade de l'Enerco qui ont rencontré ce policier-là et qui ont peut-être connu les fins fonds de l'histoire, mais peut-être ne leur a-t-il pas dit aussi. Il n'est pas obligé de parler, il n'est pas obligé de raconter son cheminement. Alors, l'objectif des conférences, de ce cas-ci, ce sera justement de sensibiliser les policiers à ce qu'il l'a amené, pourquoi il a posé ces gestes-là, parce que la dangerosité des gestes, la réprobation des membres, ça, c'est acquis. Les gens vont s'asseoir dans la salle et il n'y a personne qui va ce soir-là en se disant « ben moi, je le comprends et je le pardonne ». Non, non, on peut le comprendre, mais on n'acceptera pas ces gestes-là. Mmh. Ce n'est pas accepté dans la communauté policière. On ne peut pas jouer des deux côtés de la barrière. Et quand quelqu'un l'a franchi, vous avez vu, dans ce cas-là, ce sont des policiers de la sûreté qui l'ont arrêté et d'autres organisations là, dans l'escouade qui l'ont arrêté. Mais donc, c'est non, non. J'ai moi-même, personnellement, procédé à des arrestations de policiers et de perquisitions chez des policiers, chez des ripoux. Ce n'est pas accepté. Donc, les gars qui vont s'asseoir, qui vont écouter sa conférence, sont pas là pour comprendre qu'est-ce qu'il a dit, mais qu'est-ce qu'il a à dire, qu'est-ce qu'il a fait, mais c'est de sensibiliser, là. Les normes professionnelles ont une obligation, si on veut, de prévention pour sensibiliser les membres.
Quel est le sort qui attend un policier ripoux comme ça qui se retrouve derrière les barreaux à un moment donné parce qu'il a commis des gestes comme lui, par exemple, illégaux, échange de renseignements, puis des trucs du genre? Quel est le sort qui leur est réservé à l'intérieur des murs?
Oh, ben, écoutez, ils sont en ségrégation 24 heures par jour, sont généralement. Vous savez, comme dans tout autre, parce que comme tout autre criminel, hein, mettons, je vais vous dire, on rentrait un rock machine, on peut pas l'installer dans une aile occupée par les Hells Angels. Son espérance de vie, elle est assez courte. Un policier, c'est la même chose. On peut pas le mettre à travers la population. Donc, ils sont gardés généralement, c'est autour de l'infirmerie. Parce que le service correctionnel a l'obligation de garder tout le monde en vie. Hein, peu importe qui il est, tout le monde. Peu importe, même si c'est un pédophile reconnu, faut le garder en vie, c'est l'obligation des services correctionnels. Donc, c'est pas. Mais effectivement, pour un policier, c'est du temps très dur. Puis, vous savez qu'en vertu de la loi, il ne peut même plus pratiquer le métier d'agent de sécurité ou quoi que ce soit, ou enquêteur privé, rien, ça lui est interdit pour le restant de ses jours.
Est-ce qu'il y a la proximité avec des criminels, entre autres pour des enquêteurs? Parce que souvent, tu as des informateurs, tu sais, tu as un salaire d'enquêteur, là, qui est un salaire de policier normal. Puis les gens que tu côtoies, qui te donnent du renseignement, avec qui tu travailles, ont des salaires des revenus illégaux, évidemment, illicites, là, mais qui sont phénoménaux par rapport à ce que toi, tu gagnes. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir une espèce d'envie, à un moment donné, de dire « ben moi aussi, j'aimerais ça gagner autant d'argent aussi facilement ».
Écoutez, M. Lacroix, vous touchez un point qui est tellement vrai, qui est tellement important qu'il y a plusieurs années, je vous dirais qu'au début fin des années 2000, la SQ a mis un programme spécifique là-dessus concernant tous les policiers qui travaillaient en matière, par exemple, de crime organisé. C'était mon cas. On était tous rencontrés par on devait tous suivre une formation de quelques jours, justement sur le sujet. Pour justement, encore une fois, parce que vous l'avez dit, on rencontre des gens qui ont la grosse maison, la grosse voiture, le bateau, le chalet, et qui ne travaillent pas. Et effectivement, vous avez raison de dire que il pourrait arriver, et c'est fait l'objet de justement de la préoccupation des normes professionnelles pour y aller en prévention, parce qu'on ne veut pas ça. Parce que à toutes les fois qu'un gars, un policier ou une femme, là, se fait arrêter dans ces circonstances-là, on le sait tous, là, on se le cachera pas, là. Mm. Ça nuit à l'image de la police, on le sait, là.
Ouais.
Puis on déteste ça. À l'intérieur des rangs, là, on déteste ça. Alors, on ne veut pas ça. Mais effectivement, vous avez raison de le dire que c'est un aspect qui est très préoccupant, qui est toujours une préoccupation pour les normes professionnelles par rapport aux policiers qui ont des contacts avec ces gens-là.
M. Brochu, merci d'avoir été avec nous.
Ça m'a fait plaisir. Bonne
journée. Jean-François Brochu est un ancien policier spécialiste des affaires policières.